Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour à notre invité que je salue avec amitié. Bonjour Justine.
Bonjour.
Et bonjour tout le monde, bien sûr.
C'est Mediapolis avec Catherine Ney, toujours en direct, tous en studio. Une émission réalisée par Jean-Luc Arblat, préparée par Capucine Patouillet. Et animé en compagnie de l'excellente Justine Holman. Et notre invité, un ami de Catherine Ney, vous venez de l'entendre, un ami de Bernard Poignette, et surtout un excellent politologue, Roland Quayrol.
Et qui se flatte d'être un ami d'Olivier Duhamel.
Et pour commencer, conte-nous.
Emmanuel Macron, justement, s'est donc adressé à la Nation hier à 20h. Et il est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur le Président.
Oui. Et alors, vous voulez que je... Vous m'avez pas écouté hier soir, donc, du coup. C'est
mais
pas
si.
Très professionnel, votre part. Vous voulez que je recommence ça? Bah, écoutez, je vous la refais, pas de souci. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, vous me branchez la fontaine derrière, c'est joli.
Bravo.
Et vous me balancez la Marseillaise. Ça fait un champêtre. Merci. Française, Française, Français, rescapés, rescapettes. Le gouvernement a été super. Vous avez été admirable. Vous avez bien mérité, aller une bière tiède et des paupiettes de veau. Je rouvre le resto. Merci et bon app. Je file bosser, on s'y en jus. Bisous.
C'était lundi matin, lendemain de l'allocution du président de la République, Nicolas Canteloup, dans la matinale d'Europe 1. Alors, avant de revenir à cette allocution et à la façon avec laquelle il a géré la crise de la pandémie, et notamment la période du confinement, je voudrais qu'on aborde aussi rapidement que possible de 3-4 sujets. On a trop de sujets à traiter dans Mediapolis. Quand on n'en mentionne pas un, j'ai toujours un très bon esprit pour me dire « Vous n'avez pas parlé de ci, vous n'avez pas parlé de ça ». Alors... D'abord, la censure de la loi Avia par le Conseil constitutionnel. Roland Quayrol, vous qui connaissez tout le monde du numérique et le monde d'avant.
Écoutez, moi je pensais depuis le début que cette loi ne tenait pas la route, que c'était une loi de gens qui précisément ne comprenaient pas bien le fonctionnement d'Internet, le fonctionnement de ce que c'était que la liberté d'expression sur Internet, et que... je n'avais pas immédiatement imaginé qu'elle serait censurée par le Conseil constitutionnel, mais je dois vous dire que j'étais de ceux qui l'espéraient. Parce que il faut, en effet, qu'il y ait un contrôle du net qui s'exerce, autant que possible par les gens qui en sont eux-mêmes responsables. Mais cette espèce de façon de réglementer par des organismes d'État, de donner des dates, des durées extrêmement brèves pour que les gens obéissent, obtempèrent, aux ordres qui leur sont donnés, tout ça sans la moindre présence d'un juge, bah, par rapport à ma conception des libertés publiques et des libertés individuelles, je trouvais ça un peu choquant. Et je trouve que voilà, c'est une bonne décision qui a été prise de faire refaire la copie.
Réglementée surtout par eux-mêmes, puisque
oui,
c'était à eux qui était confié le soin d'interdire en 24
exactement.
Heures.
Et de supprimer ce qui ne leur convient
ouais.
pas. Alors,
pourtant, il y a une vraie difficulté
par,
à...
Par eux-mêmes, mais avec des risques.
Bah, il y a
oui.
une vraie difficulté à... Oui, avec des risques qui fait qu'ils auraient trop
et oui,
coupé.
Que l'autocensure devenait très, très dangereuse.
Mais c'est vrai, par ailleurs, que c'est compliqué d'articuler le nouveau monde du numérique et le monde qui doit subsister de la liberté d'expression.
C'est difficile, mais en appelant les gens à être un peu responsables et en les encadrant, en plus qu'en les contrôlant, je suis sûr que c'est jouable.
Deuxième sujet, on y reviendra très probablement la semaine prochaine, parce que, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas finie et qu'elle vote encore aujourd'hui, mais les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Et moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai entendu un de nos collègues qui était un membre du comité de gouvernance et qui est spécialiste de la démocratie participative, Loïc Blondiaux, dire que ce qui était formidable dans l'histoire, c'est qu'ils avaient voulu faire des propositions prêtes à l'emploi, qu'ils avaient eu recours à des juristes, à ce qu'on appelle la légistique, pour tout traduire en droit. Et ils avaient dit, c'est quelque chose de très précieux, complètement nouveau dans l'histoire de la démocratie participative. Et je crois que c'est quelque chose de catastrophique. Parce que quand vous décidez que absolument tout doit être traduit en droit, ça donne quoi? Ça donne interdiction, 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 ou obligation, 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 ou taxation. Et regardez, la plupart des propositions, c'est interdiction, colossal nombre d'interdictions, obligation, taxation. Exactement ce qui peut hérisser tout le monde.
Moi, je suis absolument d'accord avec vous. Et j'ajouterai un autre élément qui, pour moi, est aussi grave dans la façon de travailler qui a été adoptée et qui tient à cette volonté de traduire en texte. La conférence de consensus, qui est le principe sur lequel on s'est fondé pour faire cette conférence de citoyens, ça suppose que des gens travaillent entre eux, alors qu'ils ne sont pas du tout spécialistes, qui sont de temps en temps éclairés par des experts, mais qu'ils aboutissent eux-mêmes à un type de consensus, et qu'ils ne votent point. Ce n'est pas justement quelque chose qui singe une assemblée parlementaire. Là, ils ont tellement été encadrés, entourés, aidés par des experts qu'on leur a fourni en permanence.
Ils en avaient besoin.
Il y avait deux membres d'un comité de gouvernance qui ont pris en main cette convention citoyenne et qui leur ont fourni les experts choisis par eux, tous, qui étaient tous d'ailleurs des amis à eux. Et ils les ont entraînés dans des textes qui ne sont pas les textes des 150 citoyens, qui sont les textes des experts, finalement acceptés par les 150 citoyens, et sur lesquels ils vont voter, comme si c'était en effet des propositions de loi adoptées dans un groupe parlementaire. Je trouve qu'on s'est éloigné terriblement de la démocratie participative, selon ces vrais canons, que pourtant Blondiot connaît bien, et je trouve tout à fait dommage qu'il y ait eu cette dérive technocratique de la Convention citoyenne.
Je vais vous taquiner un peu. Oui. Vous avez été consulté ?
Ah bien sûr que non, je ne vois pas ce que je serais allé faire là-dedans. Essentiellement parlé d'environnement.
J'ai entendu ce matin Jacques Attali critiquer le truc en disant qu'il n'avait pas été consulté, oui. Donc ça m'a fait rigoler.
Ah ben oui, c'est là où le bât blesse, évidemment. Bon. Il n'a pas été consulté. Allez, non, mais maintenant, c'est de savoir que va en faire Emmanuel Macron, qui a dit tout ce que vous proposerez, je le garderai. Ça me rappelle Nicolas Sarkozy, qui avait justement chargé Jacques Attali de faire une commission sur la croissance en disant tout ce que vous m'apporterez, je le ferai. Puis finalement, il n'a pas retenu grand-chose.
Non, mais si vous permettez, Macron n'a pas exactement dit qu'il le prendrait, il a dit qu'il le proposerait.
C'est ce que je voulais dire.
Il
ne
changerait pas la proposition, pas qu'il l'adopterait.
Non, voilà. Je le proposerai. Voilà.
D'accord. Alors, dernier sujet dont on ne peut pas ne pas dire quelques mots. Les rebondissements dans l'affaire Fillon, les déclarations de l'ancienne procureure financière Éliane Houlette, ses déclarations comme quoi elle avait subi des pressions, puis comme quoi on interprétait mal ses propos, etc. Catherine Ney, vous nous avez fait un joli édito ce matin qu'on peut écouter en replay sur le sujet. La question... J'ai envie d'aller directement à une question de principe que personne ne pose. Parce que là, il y a la question, l'enquête, on va voir qui... Bon, vous nous direz ce que vous en pensez, mais... La question de principe que je trouve assez difficile, en campagne présidentielle, est-ce qu'il est souhaitable que des juges fassent leur travail, et peut-être même leur travail en respectant les règles, aussi vite que possible, pour que les Français votent en connaissance de cause, et qu'ils n'élisent pas un président de la République après un touchable pendant 5 ans, et qu'ils se retrouveraient en procès des années et des années après, pour la clarté du choix démocratique, ou est-ce que ça n'est pas souhaitable pour ne pas perturber la campagne? C'est une vraie question.
C'est une vraie question. Mais est-ce que les électeurs devaient être éclairés? Est-ce que ce qu'a fait François Fillon en faisant travailler sa femme, lui, il a dit qu'elle lui rendait des services dont il avait besoin? Ça, c'est une appréciation des juges, en tous les cas. Ce qui était nouveau dans cette histoire, c'est que Le Canard enchaîné sort une information sur, justement, le fait qu'elle ait été son attachée parlementaire, et que le jour même, parce que le parquet financier avait eu la veille Le Canard, il lance aussitôt... Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Et qu'au bout d'un mois...
C'est une rapidité en sa défaveur,
Voilà, c'est ça. Ça a été une enquête et une enquête à charge. Et le jour, d'ailleurs, où il y a eu cette... Le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire. On le savait pas, mais en fait, il était mort politiquement. Mais là, ce qui est extraordinaire, il y a un règlement de compte de Mme Houlette, on a l'impression, parce qu'elle a été très explicite dans cette commission. Elle a dit les pressions de la procureure, Mme Champenot, qui l'appelait tous les jours, qui voulait exiger des notes, et qui même lui a demandé d'ouvrir une information judiciaire, d'abord en la recevant dans son bureau. Et comme elle refusait, qu'elle ne voulait pas, elle lui envoyait un ordre écrit. Et cet ordre écrit n'a pas été mis dans le dossier, et ça, c'est illégal. Vous voyez, c'est
ça qui est compliqué. Roll, parce qu'après, il faut qu'on passe.
Juste un mot pour dire que, à un moment où les médias vont tellement vite pour parler des événements, parfois même avant qu'ils arrivent, je remarque que Mme Houlette, après dans une commission le 10 juin, que c'était entièrement filmé en direct et que personne n'a bougé dans tous les médias français pendant 8 jours.
Très juste.
C'est assez ahurissant.
Mais oui, mais quand on voit la commission, il y a 4 personnes. Je veux dire, personne n'en a fait... Oui, il y avait 4...
Il y a un journal en France qui s'en est rendu compte, il s'appelle Le Point. Oui. Mais
non, il a
personne...
raison.
Il a raison.
Les gens ont fait le 18 comme s'ils venaient de découvrir une audition du jour-là.
C'est ça qui est bien, Mediapolis, c'est qu'on sait aussi critiquer les médias quand ils ne font pas leur travail. Et maintenant, il faut en revenir au sujet de l'allocation du président et au-delà de cela, de sa gestion, dans quelques instants.
Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec également votre invité du jour, Roland Kayrol, politologue et chercheur associé au CEVIPOF.
Et oui, nous avons retrouvé le plaisir d'être ensemble.
Nous allons donc pouvoir retrouver... le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. En somme, nous allons retrouver pleinement la France. Cela ne signifie pas que le virus a disparu et que nous pouvons baisser totalement la garde. Mais je suis heureux, avec vous, de cette première victoire contre le virus.
Roland Kayrol, si je simplifie à peine, il y a 3 thèses. Il y a la thèse selon laquelle, grosso modo, la France a très bien fait, le pouvoir politique a très bien fait, avec quelques failles. C'est la thèse de Macron et de pas mal d'autres. Vous avez la thèse selon laquelle la France a complètement foiré, n'a rien vu venir, a été incapable sur les masques et a menti en prime, a été incapable sur les tests, a été incapable de se mettre à produire, a fait le confinement trop tard, l'a fait trop dur, l'a fait durer trop longtemps. Tout faux, tout faux, tout faux. Bon. Ça, c'est la thèse, grosso modo, Jacques Attali, mais il l'applique à toute l'Europe. Bon. Vous, d'entre ces deux pôles, qu'est-ce que vous dites ?
Ben, moi, je navigue un peu entre les deux, c'est-à-dire que je pense que le monde entier a mal géré la chose, qu'après tout, ils ont tous été surpris et ils ont tous été forcés d'improviser, que si vous regardez la polémique sur les masques en France, c'est ça que les gens retiennent d'abord, hein, c'est le psychodrame sur les masques, qui est compréhensible parce que c'est la seule chose grand public compréhensible par tout le monde, bah, dans le pays qui est le plus montré en exemple en Europe, qui est l'Allemagne, ils ont eu et ils ont toujours la même polémique sur l'absence de masques et sur l'habillage idéologique de l'absence de masques par une soi-disant stratégie. Voilà. Alors c'est vrai que nous, on a continué, on a été un peu plus fort parce qu'on a réussi à faire la polémique sur les tests, parce que pour des raisons sur lesquelles je m'interdis d'avoir des hypothèses, la France n'a pas voulu acquérir les tests allemands qui étaient rapides, mis à disposition gratuitement de ceux qu'ils voulaient et qui étaient les plus efficaces. Pour des raisons que je ne veux pas connaître, la France n'a pas voulu de ces tests-là, a voulu les siens. Ils n'étaient pas prêts, moins efficaces. Bon. Donc il y a eu des choses qui ont plus ou moins été bien faites dans chaque pays par rapport aux autres. Au total, il me semble que l'essentiel du boulot a été fait partout, avec
Il commence comme tout le monde mal géré et il termine, le boulot a été bien fait.
Mais c'est ça, le boulot
vous
bien fait
triste,
n'empêche
en fait
pas qu'il y ait des ratés.
D'accord.
Et qu'il y ait des ratés, forcément, dans une administration qui s'était plantée dans l'anticipation.
Catherine Ney, vous suivez aussi la commission d'enquête parlementaire ?
Non, mais je dirais que le confinement, c'est la confirmation d'un échec parce qu'il n'y avait pas, on n'avait pas anticipé, on n'avait pas les masques, on n'avait pas les tests, alors que... Et les Français, vous voyez, qui dès le mois de février allaient dans les pharmacies pour acheter des masques parce qu'ils avaient compris avant tout le monde que peut-être ça protégeait. En tous les cas, ça ne pouvait pas nuire. Donc, il y a ça et que les Français ont mal vécu. Donc, mais le confinement, donc, c'est l'aveu d'un échec. Mais heureusement qu'il y a eu le confinement. Voilà, ça, on peut dire ça. Et heureusement qu'il s'est arrêté pas trop tard. Et vous me posez la question sur la commission d'enquête. Et là, c'est vrai que dans cette histoire, celui qui a hérité les parlementaires, c'est Salomon, le professeur Salomon, qui répondait sans répondre, qui était en même temps oui, en même temps non, et qui ne disait pas les choses, et qui disait que les masques ne servaient à rien, après avoir dit 15 jours avant qu'il fallait mettre un masque. Donc c'est plutôt lui qui a hérité, mais la commission, avec M. Bourdillon, un ancien directeur de la Santé, puis avec le professeur Delfrécy, a retrouvé ses marques. Et on a l'impression que la commission d'enquête juge qu'il y a des ratés, mais que ce n'était pas si mal que ça. Quoi.
Le conseil scientifique, évidemment, ça pose un problème. Quoi. ça n'est ni totalement scientifique, ni vraiment un conseil. Ça prend de temps en temps des décisions derrière lesquelles se réfugie le pouvoir. C'est pas nous qu'on le veut, mais le conseil scientifique a dit. On s'aperçoit que le conseil scientifique, il est divisé, qui dit sans arrêt des bêtises, que lui, alors il revient sans arrêt sur ses propres analyses. On écouterait le conseil scientifique, on serait sans doute toujours en confinement et peut-être jusqu'à la fin des temps. Voilà, je crois qu'il est
temps
aussi...
Ça, c'est pas vrai pour Delfrécy qui, au contraire, voulait tout ouvrir après avoir voulu confiner tout le monde. Non, oui, il a changé.
Mais il dit on était... Il a plus que changé.
Oui,
mais
il dit au départ...
C'est même incroyable. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas d'analyse et qui ont des solutions qui ont l'air de plaire plus ou moins aux différents moments et qui, ça n'empêche pas, ça leur empêche pas, eux, puisqu'on est un médiabolisme, de venir plastronner dans les médias en permanence.
Il y a un très joli mot de... Juste avant la pause, il y a un très joli mot d'un médecin là-dessus, sur ceux qui plastronnent. Mmh. Le Covid, moins tu en vois, plus tu les vois. Allez, on se retrouve dans 2 minutes.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ce samedi, ils reçoivent le politologue Roland Quayrol, chercheur associé au CEVIPOF.
Et nous sommes le 20 juin, donc le surlendemain du 18 juin, 60e anniversaire d'un discours fondateur que peu de gens ont entendu et qui n'a même pas été enregistré. Et on peut dire que la récupération est partie vitesse grand V. Alors pour le président de la République, est-ce que c'est l'obligation présidentielle d'un hommage normal? Est-ce que c'est la volonté de s'inscrire aussi dans cette lignée, Roland Quayrol?
Oui, c'est les deux. Hein. C'est quand même le texte sacré. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, ne s'éteindra pas. C'est le début de ce qui va faire le gaullisme, la résistance, l'honneur de la France. Et en même temps, on voit bien que le général, il a décidé, en effet, de nous jouer le petit général. Son dernier topo auquel vous faisiez référence à la télévision, il nous fait quoi, 4 fois, 5 fois le coup de l'indépendance de la France. Ça m'a d'ailleurs assez bluffé, parce que qu'il ait parlé de souveraineté, et en habilement en mélangeant souveraineté de la France et souveraineté de l'Europe, étant donc entendu que l'une était appelée à limiter l'autre, et qu'on n'avait plus une possibilité de souveraineté unique de la France, nous parler pour la France d'indépendance, pour mettre ses pas dans ceux du général de Gaulle, ça m'a paru un tout petit peu fort de café politiquement. Je ne crois pas une seconde qu'on puisse avoir une politique d'indépendance de la France dans le monde que nous vivons. Mais enfin, voilà, à cette heure où on se dit, on va reproduire français, ça me rappelle l'ancien slogan du Parti communiste français, vous vous rappelez, produisons français. Donc, on va reproduire français, on va tout le relocaliser, on va sûrement augmenter les prix de la Dacia de 25% pour pouvoir la produire en France. Enfin, on est parti dans des rêves politiquement déraisonnables, mais voilà.
Est-ce que je peux...
C'est le mot d'ordre
enfin,
d'indépendance.
Oui, mais c'était un discours peut-être gaullien, mais d'abord d'après Covid, disant aux Français, je vous ai compris, parce qu'aujourd'hui, 70% des Français veulent nationaliser toutes les activités stratégiques, 50% sont favorables à un protectionnisme économique, donc Colbert est de retour, vous voyez. Donc, aujourd'hui, les partisans de la mondialisation heureuse, ils devraient raser les murs. Mais Macron, ce qui est extraordinaire, il est à la fois pour la souveraineté et tout ça, puis en même temps, il n'a jamais été aussi européen. Et ce qu'il fait avec Mme Merkel, c'est un début de fédéralisme quand même. Donc, il est en même
Dieu
temps.
Vous entendre,
je voudrais revenir un instant. Je voudrais imaginer que nous sommes en, disons, en 45. Revenir un instant sur le discours, non pas sur le contenu du discours de Gaulle, mais sur le fait que, est-ce qu'on peut considérer que c'est un cas presque unique dans l'histoire dans lequel tout commence par des mots? C'est-à-dire que c'est un homme quasiment seul qui va, par la force des discours, et évidemment de ce que ces discours disent, mais par la force des discours ralliés à lui à Londres et puis dans la résistance en France, et inverser le cours de l'histoire. Je n'ai pas d'autre exemple dans lequel... à la fois une personnalité politique va exister par, mais surtout le cours de l'histoire va être modifié par, au départ, un puis des discours.
Au commencement était le verbe.
Oui.
Dit le L'évangile selon voilà. Saint Jean.
Mais ça, faut c'est que... dans l'évangile,
oui,
mais alors dans
avec
l'histoire
de Gaulle,
politique...
le verbe s'est fait chair. Et avec Macron, il faudrait que le verbe aussi se fasse chair oui, en juillet.
Je vous parle de De Gaulle et de la fondation d'une histoire par un discours, et vous, ramenez à... vous me ramenez à Macron, vous êtes décidément mais... bien
quand
macroniste
même...
aujourd'hui.
Ah, mais vrai quand même, c'est que le général, il y a le discours, et il y a le fait d'épouser le média qui va devenir dominant et qui permet de porter le ça discours. Fait, c'est-à-dire c'est la radio en 1940, et elle va avoir pendant toute la guerre une importance formidable, parce qu'on n'a pratiquement pas entendu le discours du 18 juin, mais au fur et à mesure que les années BBC se sont déroulées, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à écouter le général
radio
à
Londres.
La BBC. Il a été une voix. Et puis ensuite, lorsqu'il reviendra au pouvoir en 1958, il le décrit lui-même dans ses Mémoires d'espoir. Il dit, et voilà que justement une nouvelle découverte se présente à moi qui me permet d'embrasser le pays tout entier, et ça sera la télévision.
Mille fois d'accord, donc nous avons connu le 18 juin 1940, le discours le plus médiapolitique de tous les discours, entendu par très peu, et même pas enregistré. On se retrouve dans 2 minutes.
Le politologue et chercheur associé au CVPOF, Roland Quayrol, est votre invité ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
Juin 40, île de Sein, l'île presque la plus occidentale de France, juste avant Ouessant. Petite île où l'immense majorité des marins-pêcheurs, par centaines, ont rejoint Londres. 17 juin 2020, île de Sein, Marine Le Pen.
Alors où notre pays est soumis à une dépossession sourde qui met en péril son unité, son indépendance, sa souveraineté et même sa stabilité, l'engagement des marins patriotes de l'île de Sein nous encourage à l'action. Il nous rappelle que l'adhésion à une noble cause n'a de sens que par l'action qui l'accompagne, que l'histoire s'écrit avec l'énergie et parfois le sang des hommes, et que la liberté n'est jamais immuable. Ces héros, humbles citoyens de France qui avaient épousé la cause du salut national, savaient, avec leur chef, le général de Gaulle, que, dans les circonstances graves pour le pays, le fléchissement eût entraîné l'effondrement.
Marine Le Pen a absolument le droit, comme tout le monde, de s'exprimer sur le 18 juin, sur le général de Gaulle, et même de s'en revendiquer, thèse 1. Jean-Louis Debré et autres, franchement, le parti qui a voulu assassiner le général de Gaulle, le parti qui a combattu le général de Gaulle, maintenant sans réclamer, trop c'est trop.
Écoutez, c'est le petit-fils du général de Gaulle dit que ce sont les Français les héritiers de Gaulle, alors tout le monde peut se prévaloir de... Bon, mais pourquoi Marine Le Pen ? D'abord, moi, je trouve extraordinaire de venir à l'île de Sein un 17, fêter le 18 juin un 17, et le 17, c'est l'anniversaire du discours du maréchal Pétain, qui annonce que c'est la fin de la guerre, c'est l'ouverture de la collaboration, il fait don de sa personne à la France pour collaborer avec les Allemands. Alors, moi, je trouve qu'elle a mal choisi son jour. Hein,
extraordinaire au sens critique.
Voilà, donc je trouve ça extraordinaire, donc elle ne connaît pas l'histoire, c'était un mauvais jour. Mais à la fois, c'est vrai qu'elle savait qu'elle allait être mal accueillie. Elle a eu l'audace, parce qu'elle est courageuse, d'y aller en Zodiac et avec une mer qui pouvait être agitée. C'était dangereux pour elle d'y arriver. Bon, elle a été mal accueillie, elle a fait un discours où elle avait l'air de lire un texte qu'elle ne ressentait pas. Elle a déposé une gerbe, sa gerbe a été piétinée. Bon, tout ça. Mais pourquoi fait-elle ça ? C'est parce qu'elle veut bien, elle espère en tirer un bénéfice. Mais lequel ? Alors, il y a toujours la dédiabolisation du père. Hein. C'est l'idée qu'elle n'est pas comme son père, qui était anti-gaulliste à cause de l'Algérie, qu'elle veut tourner la page et tout ça. Mais moi, je dirais aussi que c'est un peu même contre celui qui était son compagnon, son directeur de campagne, qui est candidat à Perpignan, et qui sait très bien que son électorat, c'est les pieds noirs. Les pieds noirs sont anti-gaullistes. Donc, elle ne peut pas ramener une voix gaulliste. Oui, donc à quoi ça sert ? Donc il y a les deux buts qu'elle... Je pense que ça sert à rien, qu'elle récupérera rien du tout. Et quand elle le fait, on peut pas dire qu'elle ait développé un talent formidable. Donc voilà.
Roland Quayrol ?
Et moi, je pense qu'on est au comble du ridicule.
Oui ?
Je pense qu'il n'y a rien de plus éloigné du gaullisme, même si chacun peut prétendre porter un bout de la vraie croix gaulliste, la vraie croix de Lorraine. Il n'y a rien de plus éloigné que le Front National. Le Front National, il se crée notamment contre le gaullisme, contre le général. À cause de l'Algérie, bien sûr, n'oublions pas que Jean-Marie Le Pen lui-même avait été personnellement tortionnaire en Algérie et que les tribunaux nous ont donné le droit de le dire puisque c'est la vérité. N'oublions pas qu'il était entouré de vieux pétainistes et qu'on plaisantait sans arrêt contre le général avec les pétainistes.
Et la fille a loin d'être loin du père.
Et la fille nous dit non. La fille nous répond, là, ces jours-ci, elle nous dit mais comment, il y avait parmi les fondateurs du Front National Georges Bidault, qui avait entre-temps viré à l'extrême droite d'ailleurs. Mais Georges Bidault, il a
adhéré... président du Conseil National de la Résistance.
Oui, bien, et qui entre-temps avait viré à l'extrême droite et à l'OAS. Mmh. Mais ce Georges Bidault, il a appelé à créer le Front National et il en a démissionné 11 jours plus tard. Donc voilà la seule personnalité qu'on pourrait dire à un moment gaulliste qui était mise en avant par Marine Le Pen. Non, c'est une pantomime, c'est une pantalonnade, c'est une rigolade. On peut se faire semblant à l'extrême droite de se réclamer de qui on veut. Je trouve que là, aller à l'île de Sein pour commémorer le général, c'est trop. Et je pense que personne ne s'y laisse tromper. Quant au fait qu'elle y va le 17, alors là, pour une fois, je vais la défendre. C'est parce que le préfet fait savoir qu'elle n'est pas bienvenue et qu'il faut qu'elle décale sa présence pour pas être offensée l'île de Sein. Là, le préfet, il aurait aussi bien fait de se taire, celui-là.
Donc, une erreur d'un côté, une pantalonnade de l'autre. Et pendant ce temps-là, quid d'Édouard Philippe ? Qui à Matignon ? Encore lui ? Quelqu'un d'autre ? Suspense. Réponse ? Non, pas réponse. Hypothèse, dans 2 minutes.
Jusqu'à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel et Catherine Ney qui reçoivent ce samedi dans Mediapolis Roland Quayrol, politologue et chercheur associé au CVPOF.
Alors, il se passe une chose bizarre, c'est que dans toutes les critiques sur pourquoi vous ne parlez pas de ci, pourquoi vous ne parlez pas de ça, il n'y a jamais et pourquoi vous ne parlez pas des municipales. Et pourtant, on ne parle pas des municipales. Et à chaque fois, sur notre conducteur, il y a un sujet municipal, et puis à chaque fois, pfft, on le saute. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de campagne ? Comment ça se fait que tout le monde s'en fiche qu'on n'en parle pas des municipales, Catherine Ney ?
Mais parce que si on fait toute une émission et pour égrener ville par ville ce qui va se passer, ceux qui...
Non, mais ça, il n'a jamais été question de faire ça. Ça a bousillé l'émission comme ça.
Bon, ouais. Ben voilà, je veux dire, ça n'intéresse... ceux qui sont intéressés par les municipales, c'est chaque Français dans chaque ville qui, avec le journal local, c'est à peu près... À quoi s'en tenir. Mais la seule inconnue, c'est vrai, qui est intéressante dans ces municipales, c'est quel va être le score des Verts. Voilà.
Oui, je dirais peut-être au-delà, est-ce que les Verts vont réussir en alliance d'ailleurs à conquérir Marseille, Toulouse, Bordeaux, voire Lille,
Strasbourg,
auquel cas, si vraiment toute une quantité de...
Et Lyon,
bascule
et la métropole de Lyon
dans une... coalition est conduite par les Verts, là, ce sera pour le coup un événement politique qu'on aurait mieux fait d'évoquer avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait à Mediapolis.
Roland ? Oui, mais...
je pense que c'est vrai. Et puis, il faut bien voir que les choses qui marquent dans les campagnes électorales, c'est les grands meetings, les grands rassemblements. Ça permet d'avoir des images, de montrer la puissance du candidat ou des partis. En France, où il n'y a pratiquement plus de virus, c'est toujours interdit d'en faire, alors que Trump va faire un immense meeting alors que lui, il a un virus encore en progrès. C'est les bizarreries de la gestion sanitaire, on a tous le sentiment que c'est fini, mais il y a toujours ces règlements qui font que la campagne est devenue une campagne, pour le coup, terriblement virtuelle, et que c'est difficile de la voir.
On va savoir si les Verts profitent du Covid, parce qu'ils nous ont expliqué que la Terre s'est vengée de nos comportements de prédateurs. Donc, est-ce que les gens... certains Verts disent ça. Alors, on va voir si ça peut... si ça parle à ceux qui vont voter.
Et pendant ce temps-là, le microcosme médiapolitique s'amuse avec le futile.
Mais il ne faut jamais, par principe, il ne faut jamais rien exclure. Mais tout cela est futile. Ça fait toujours plaisir de voir son nom circuler. Donc du coup, il y a tout de suite ceux qui vous tirent dessus pour empêcher que cela se passe. C'est un débat futile. Et moi, je n'en sais rien. Même si on me le proposait, je ne sais pas aujourd'hui quelle serait ma réponse.
Assez subtile la réponse de Manuel Valls à Audrey Crespo-Mara sur LCI jeudi, n'est-ce pas ? C'est futile, si on me propose, je ne sais pas quelle serait ma réponse.
Oui. D'autant que nous, on sait très bien ce que serait sa réponse.
Oui. Et on sait aussi qu'on ne lui proposera pas.
Oui.
Alors, je vais jouer au jeu futile. Vous pariez qu'il reste ou qu'il part, Édouard Philippe, Catherine Ney ?
Écoutez, je n'en sais rien. Crois même qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'en sait rien.
D'accord. Alors, mais parfois, vous savez avant même les présidences qu'ils vont
non,
faire.
Non, je ne sais pas. Édouard Philippe, c'était un pari fou de le choisir comme Premier ministre. Oui. Et sûrement, Emmanuel Macron ne le connaissait pas et n'imaginait pas l'ascendant qu'il allait prendre.
Je vous pose ma question autrement. Oui, à sa place, vous le changez ou vous le gardez?
Moi, je pense qu'à 2 ans de la présidentielle, moi, je le garderai. Parce qu'il fait très, très bien son boulot. Et moi, je trouve que plus je le vois aux questions d'actualité, où il est très loyal au président, il est de meilleur en meilleur. Alors, s'il s'en débarrasse alors qu'il est de meilleur en meilleur, on dira que c'est de la jalousie, que c'est, voilà, ça ne sera pas bon pour lui.
Roland Quayrol, question numéro 1, pronostic, si vous ne voulez pas le faire. Question numéro 2, de toute manière, à sa place, qu'est-ce que vous faites à la place de Macron?
Écoutez, je crois que Édouard Philippe a été, depuis Michel Debré, le meilleur Premier ministre d'un président de la République. Je pense que c'est celui qui a le mieux respecté l'esprit des institutions.
Vous prenez votre temps pour ne pas répondre ou pour répondre?
Pour répondre.
Oui.
Donc il devrait rester, parce qu'il a été extrêmement efficace, tout en étant extrêmement fidèle à l'orientation présidentielle et au fait qu'il était cher.
Et donc vous le garderiez?
Donc très évidemment, je le garderai. Et je le garderai d'autant plus que je regarderai par qui le remplacer.
Alors, attendez,
et que je ne trouverai point.
D'accord. Mais il faut toujours trouver. Moi, je vous présente la thèse.
Moi, je ne comparerai pas à Debré.
Je vous présente
la thèse. Je comparerai à Pompidou.
Je vous présente la thèse contraire.
Non, parce que Pompidou, je voulais monter à l'étage d'au-dessus.
Je vous présente la thèse contraire. Très vite. De Gaulle, il change Debré pour Pompidou. Il a raison. Et ça lui réussit. Ensuite, pour aller vite, erreur de Giscard. Il ne change pas Barre. S'il avait pris Simone Veil en 79, il limitait les risques de perdre en 81.
Pas sûr.
Erreur, Sarkozy, il ne change pas Fillon. S'il avait pris Borloo au lieu de Fillon, il limitait le risque de perdre. Et donc, quand on
n'en sait rien.
Non, non, c'est une thèse que j'ai le droit de présenter, Catherine, même si vous la partagez pas.
Oui, et puis erreur Rocard, erreur Mitterrand qui vire Rocard et qui met Cresson. Quoi.
Oui, oui, ça veut dire.
Non, mais donc l'idée que... Oui, mais avec Mitterrand, c'est différent parce que c'est par la cohabitation qu'il se fait réélire à chaque fois, etc. Bon. Mais l'idée de... Et après, de toute façon, c'est fini. Non, mais l'idée que dans une dernière phase du quinquennat, surtout si on est en fragilité électorale, il vaut mieux rebondir avec un changement de Premier ministre, vous achetez pas.
Ah, mais moi, je n'achète pas, mais je pense qu'il va probablement acheter. Je pense que c'est pas pour des raisons de fidélité, d'efficacité, du fait qu'il fait bien le job.
Oui.
Je pense qu'il va être de plus en plus conduit à se dire il faut quand même marquer par un geste symbolique fort le passage à l'acte 3 du quinquennat. Ouais. J'ai rien sous la main, je peux pas dissoudre, je me prendrai une branlée.
Démissionner encore moins.
Démissionner encore moins.
Faire un plébiscite, je le perds.
Voilà, donc la seule voie qui me reste, c'est celle-là. Faisons-le. La seule chose, encore une fois, qui pourra peut-être l'arrêter, c'est de trouver qui. Parce que vraiment,
en tout cas,
c'est dur.
Les ressources humaines sont rares.
Écoutez bien, monsieur le président de la République, Catherine Ney et Roland Quayrol vous conseillent de garder Édouard Philippe. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe du côté de Trump et des réseaux sociaux? Réponse dans 2 minutes.
Comme tous les samedis, on vous retrouve Olivier Duhamel et Catherine Ney avec Mediapolis. Aujourd'hui, vous êtes accompagné par Roland Quayrol, politologue et chercheur associé au CEVIPOF.
Comme toujours à ce stade de l'émission, je regarde ce que Alice Baudry, directrice de la communication et du marketing de l'Institut Montaigne, a sélectionné pour nous en surveillant les médias internationaux. Évidemment, le personnage médiapolitique par excellence, c'est Donald Trump. Le domaine médiapolitique par excellence, ce sont les réseaux sociaux. Et cette semaine, nouveau rebondissement. Article du New York Times daté du jeudi 18 juin. Jeudi, Facebook a supprimé des publicités publié par la campagne de Trump. Des publicités qui mettaient en évidence une image d'un grand triangle rouge pour protester contre Antifa, un collectif de manifestants antifascistes que Trump a accusé de violence et de vandalisme lors des manifestations nationales contre le racisme. Même s'il y a peu de preuves qu'Antifa a été impliqué dans des campagnes coordonnées pendant les manifestations. Les pubs expliquaient que des mobs dangereux de groupes d'extrême gauche courent dans nos rues et provoquent un chaos absolu. Sous ce texte se trouvaient donc de grands triangles rouges. Pour ceux qui ne le savent pas, le problème, c'est qu'il rappelle le symbole utilisé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour identifier les communistes et autres prisonniers politiques dans les camps de concentration. Tout comme ils ont utilisé un triangle rose pour identifier les personnes étiquetées homosexuelles. Il n'est pas encore très clair si la campagne de Trump connaissait l'origine du symbole qui a été récupéré après la Seconde Guerre mondiale par certains antifascistes en Grande-Bretagne et en Allemagne, dit le New York Times, et j'ajoute en France. D'ailleurs, souvent, on voit des gens de la France insoumise sur le triangle. En tout cas, pour l'instant, selon le New York Times, les experts trouvent le lien évident. Et voilà, pour la première fois, Facebook auquel on reprochait de ne pas, à la différence de Twitter, mettre d'avertissement sur les tweets racistes ou assimilés de Trump, à son tour a décidé d'agir. C'est pas rien. Un mot là-dessus, Roland Quayrol ?
Oui, c'était difficile de croire un truc pareil quand on l'a vu, parce qu'on l'a quand même vu. Il y a quand même eu 950 000 Américains qui ont vu le tweet de Trump et 550 000 qui l'ont vu sur le site du vice-président, qu'il avait mis lui aussi. Mais je trouve que c'est pas mal qu'il y ait cette réaction, parce que précisément, moi j'étais de ceux qui se disaient « Twitter va loin dans sa volonté de faire attention avec les symboles politiques qui ne doivent pas, et surtout extrémistes, qui ne doivent pas apparaître sur le réseau, Facebook a l'air d'accepter tout. Mmh. Et là, dans cette espèce de petite guéguerre d'images entre Facebook et Twitter, je trouve pas mal que la bande de Zuckerberg ait décidé de réagir.
Alors d'abord, il y avait eu beaucoup de protestations internes à Facebook.
D'autre part, c'est toujours comme ça.
Il y a quand même une différence, c'est que là, il s'agit de publicité du camp Trump. Il ne s'agit pas d'un message de Trump lui-même.
Oui, mais qui a été repris sur son propre site.
J'entends bien, mais par rapport à Twitter, Twitter alerte sur des messages de Trump, il ne les censure pas. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a quand même des limites et que le président de la République, on ne peut pas, on ne peut pas le censurer. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, oui, tout à fait.
Non, mais il ose quand même, au bas d'un tweet présidentiel, dire que voilà, faut pas croire tout ce qui est dit dans le tweet.
Alors, ça vous choque
quand même. Ah ben non, moi je trouve ça très bien, au contraire. Non, je trouve ça très bien. Moi je trouve que c'est leur devoir. On ne censure pas, mais on fait une remarque. Oui.
Bon, alors en France, on n'a pas ces problèmes-là. D'abord, on ne peut pas avoir de problème de publicité politique, parce qu'on l'oublie souvent. Moi, je le rappelle dans la série podcastée Mr. President, la grande différence entre les présidentielles américaines et les présidentielles françaises, l'immense différence, elle tient en deux trucs qui sont d'ailleurs liés, qui sont l'argent. Parce que l'argent n'est pas plafonné aux États-Unis d'Amérique, et ce sont des milliards qui sont dépensés, et les publicités politiques, notamment les publicités politiques négatives qui envahissent la campagne, qui sont interdites chez nous, négatives ou positives.
Oui, sauf que de plus en plus, les symboles et les campagnes dont il s'agit sont sur les réseaux sociaux. Mmh. Et que de ce point de vue, il est toujours possible de faire des choses sur les réseaux sociaux en France. Là, il ne s'agit pas réellement d'un arbre de campagne. C'est une arme
de dénigrement,
mais pas encore de campagne électorale. Donc, voilà,
vous voulez dire qu'on va avoir un problème, nous, avec les réseaux sociaux qui seront des formes à assimiler.
Je pense que nous l'aurons. Je pense que nous l'aurons dans la prochaine très campagne présidentielle.
Sujet qu'on va absolument aborder, parce qu'il est très important, où en effet, c'est facile d'interdire la publicité politique à la télévision ou à la radio. Interdire de la publicité politique par propagande sur les réseaux sociaux. Bonjour la difficulté.
Surtout quand on n'est pas sûr exactement de qui est l'émetteur.
Absolument. Alors maintenant, pour terminer, une chanson sur des paroles de Pierre Delanoë, interprétée par Gilbert Bécaud, 1965. Et c'est pas pour rien.
Pendant la campagne présidentielle du général de Gaulle.
Du général de Gaulle.
Tu le regretteras.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée. La voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées. La voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie sans sous, ouais. Le nom drôle de nom, écrit sur l'ouragan. Quatre murs de l'horizon, claquant comme un slogan. Ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais. Ce nom qui chante clair, je te parie sans sou, que tu le regretteras, tu le regretteras, tu le regretteras. La ville à longue vie, apprendra pour la leçon du mercredi et qu'il ne saura pas cette vie qui ne fut pas toujours à ton goût. Moi, quand elle ne sera plus, je te parie sans sous. Ouais, c'est vraiment très dommage. Toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage. Ah, quand on parle de lui, cet homme légendaire au milieu des vivants. Ouais, le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs que tu le regretteras.
Gilbert Bécaud, 1965, et on a bien vu dans cette émission qui en avait qui devrait ou pour faire semblant le regrettait. Merci à Jean-Luc Arblade qui a réalisé cette émission, à Capucine Patouillet qui l'a préparée, à Justine Holman qui l'a formidablement accompagnée. Et maintenant, l'ami Mariotte, comment ça va?
Mais ça va bien, Olivier, ça va bien, Catherine. On va revenir sur l'ouverture des restaurants ce samedi. Il y a déjà pas mal de cases. 17% des restaurants n'ont pas rouvert. La bonne nouvelle, c'est que les premières tomates, elles sont là. On va les retirer avec Stéphanie Lequelec. Et on recevra le comédien bon vivant Guillaume de Tonquédec.
En attendant vos tomates, je remercie aussi évidemment Catherine Ney et notre merveilleuse invité Roland Quirol. À samedi
prochain.
Merci
à vous.